Bonsoir, c'est l'heure de votre émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine, une émission réalisée par Béatrice Maché. L'occasion pour moi de vous présenter mes vœux pour l'année 2026, tout juste entamée. Qu'elle vous soit douce et remplie de poésie. Ce soir, je suis à Pugéville, hors du studio donc, en compagnie de la plasticienne Magali Latil. Je disais plasticienne. Magali Latil, une plasticienne avec des affinités fortes pour la poésie, une plasticienne qui écrit des notes d'atelier et des poèmes, une plasticienne qui a réalisé de nombreux livres d'artistes avec des auteurs tels que Ludovic de Grotte, Bernard Noël, Antoine Aimaz, François Dominique, Régine Détambel, Jean-Claude Villa, Edith Azan. Mais Magali, vous avez aussi accompagné de vos œuvres les textes de la poétesse Claudine Bouille, par exemple. Tous les noms cités sont les noms de poètes reconnus et qui laisse une trace indélébile dans l'histoire de la poésie francophone. Pour vous présenter, je dirais que vous êtes né en 1965, que vous vivez près de Toulon, que votre travail plastique génère en vous un espace où les mots « travail », que par conséquent vous avez publié soit des livres, soit des notes d'atelier, et en voici une petite liste non exhaustive. En 2010, paraissait « Corps », aux éditions Pas vu, pas pris, avec les peintures originales de Stéphanie Ferrat, elle-même plasticienne et poète. En 2009, dans la revue Rehaut, le numéro 23, paraissaient des notes d'atelier sous le titre de « Dedans, dehors » et dans la revue N4728, le numéro 16 de cette revue, paraissaient « Mes paysages ». Encore des extraits de notes d'atelier. En 2005, 36 choses à faire avant de mourir, paru aux éditions du Précaré, qui se tiennent à Grenoble. En 2001, paraissait le livre de la rencontre, aux éditions Pourquoi pas, et c'était une coproduction Acte Kobe France. Magali, vous avez exposé à de nombreuses reprises, aux six coins de l'Hexagone, soit pour des expositions collectives, soit pour des expositions en solo. Et je vais finir cette brève présentation en vous demandant de lire ce texte qui présente votre travail.
Mon travail plastique se situe dans un espace étroit entre dessin et écriture. Parfois, le geste, la posture de l'écrit se trouve dans le dessin. De l'écriture frappée vient se joindre au trait. La pensée est visible et se construit par l'écrit. De même, est visible et construite par le dessin. Mon travail de dessin serait une retraduction de la première trace écrite, ou plutôt le mouvement de la pensée écrite, essayerait d'être visible différemment par le dessin. Du dessin surgirait ce mouvement même, à l'instant de son apparition. Une parole qui ne parle pas, une parole silencieuse.
Merci. Et je précise que ce que vous venez de lire, Magali, est un extrait de vos notes d'atelier. Le titre en est « Rapport, dessin, écriture, couture ». C'est sur ce rapport précisément que vous entretenez entre écrit et dessin que nous allons nous pencher pour essayer de faire cette expérience aux auditeurs. Mais pour commencer et pour respecter une sorte d'ordre chronologique, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ce rapport dessin-écriture remonte à votre enfance? Avez-vous commencé par le dessin pour en venir à l'écriture? Ou bien c'est l'inverse?
Alors, autant que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par des artistes, des écrivains qui étaient vraiment à la frontière de ces deux matières. Me vient en tête Christian Dotremont, par exemple, avec ses logogrammes et son travail d'écrivain, donc. Henri Michaud, Bernard Réquichaud. Lorsque je faisais mes études aux Beaux-Arts, ces gens-là ont été vraiment très importants pour moi. En fait, je pense qu'au fond, j'aurais toujours aimé devenir écrivain. Et donc, je ne le suis pas, je suis plasticienne. Mais l'écriture a toujours été très importante pour moi. Déjà dans les lectures, J'ai toujours lu beaucoup, beaucoup de poésie, de philosophie. C'était vraiment une recherche, la lecture. Ça me donnait souvent des images plastiques, en fait, des mouvements, des vibrations à retranscrire. Et encore aujourd'hui, le dernier livre que j'ai fait avec une écrivaine, Pia Tafdruk, aux éditions Une, un livre qui s'appelle La boussole des oiseaux migrateurs. En lisant sa poésie, ça me donnait donc des sensations, de vibrations, de formes, de recouvrements. Voilà, pour moi, l'écriture, c'est vraiment une matière qui donne un élan, qui peut donner un élan à la création plastique. J'ai eu écrit beaucoup en travaillant à l'atelier, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'est de sentir, de découvrir mon propre processus de création, de mettre en bouche ce qui se passait en moi pendant l'acte plastique. Si vous voulez, ce qui a toujours été important, c'est qu'un dessin appelle le suivant. C'est-à-dire que pour moi, la création plastique, c'est un petit peu comme des points de couture. On fait un dessin un jour, le deuxième est en fonction du premier, le troisième est en fonction du second, etc. C'est un petit peu comme si l'œuvre me devançait quelque part, comme si le travail plastique avançait malgré moi, en quelque sorte.
De la même manière que l'écriture se déroule, se déplie, se déploie, votre dessin, de même.
À son propre chemin. La création a son propre chemin.
Une autre question, c'est quand s'est produit le déclic qui vous a fait vous consacrer à une vie d'artiste, comme on dit?
Alors ça s'est fait par hasard un petit peu. Alors déjà, mon grand-père peignait. J'ai passé mon enfance avec mes grands-parents. Il travaillait sur le motif, une peinture de paysage. Il prenait son chevalet, sa toile, ses peintures, et avec mon frère, ma sœur, il nous emmenait nous balader dans la colline. Et il prenait son matériel et il peignait le paysage qui l'entourait. Donc j'ai toujours eu ce regard-là en étant enfant. Je m'y suis mise un petit peu et par hasard, un jour, je me suis dit, tiens, je vais passer le concours des beaux-arts. Donc j'étais à ce moment-là déjà dans la vie active, donc c'était un peu un pile ou face. Mes parents qui étaient très ouverts m'ont laissé totalement l'ouverture pour ça. Et donc voilà, j'ai été prise dans une école d'art à Toulon. Et j'ai commencé vraiment à travailler, à m'intéresser à cet univers plastique par la rencontre des professeurs qui étaient là à l'époque, qui sont pour la plupart devenus très vite des amis en fait. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais ensuite, je pense que on a notre propre travail plastique bien des années après. D'être étudiant dans une école d'art, c'est un fait, une ouverture. On amorce un petit peu un travail de recherche. Mais le travail réel, qui se poursuit toute une vie, arrive quelques années après, je pense.
Et le livre d'artiste dans tout cela, Magali, l'a-t-il?
Alors, il y a un rapport très intéressant à l'écriture, là, au livre d'artiste, qui est un espace de travail très particulier pour moi, que j'ai toujours mis en vis-à-vis de mon travail plastique, en vis-à-vis de mon travail d'atelier. Comme je le disais tout à l'heure, dans le travail de création qui est propre au plasticien, pour moi, un dessin appelle le suivant. Il y a un cheminement qui se fait malgré soi, quelque part. Dans le livre d'artiste, c'est un espace complètement différent pour moi. C'est un espace qui peut être plus détendu. On s'autorise plus. Ça marche par série beaucoup. Alors l'idée de la série m'intéresse beaucoup aussi dans mon travail. J'ai tendance à faire des séries. Et donc un livre d'artiste, pour moi, c'est une série de dessins particulières. Ce qui peut changer du travail d'atelier, c'est le format. Le format qui est imposé du coup, imposé par l'éditeur. Mais c'est un format qui reste complètement ouvert. On peut expérimenter des choses là-dedans qu'on ne s'autorise pas dans le travail d'atelier, quelque part, parfois. Également, on a bien sûr pour appui l'écrit du poète. Il y a eu une grande mode des livres d'artistes, c'est vraiment mon avis personnel. C'est pas parce qu'on va faire trois traits à côté d'une poésie que ça fait un livre d'artiste, forcément, hein. Alors pour moi, les livres d'artistes qui sont réellement dignes de ce nom, c'est vraiment un travail à trois. Il y a l'éditeur, il y a un écrivain et il y a un plasticien. Et c'est un espace qui se crée vraiment à trois. L'écrivain Ce n'est jamais un texte sorti du fond de sa valise qui va donner au plasticien. C'est un texte qui va être écrit en fonction du travail du plasticien. Et le plasticien qui va intervenir en fonction de ce texte, il est censé aussi se déporter de son propre travail pour pouvoir accueillir le travail de l'autre. J'ai eu une belle aventure avec les livres qui avaient été faits par Eliane Kircher, qui avait une édition qui s'appelait « À la main ». Le poète venait poser son écriture manuscrite. Et le format était décidé ensemble entre l'écrivain, le plasticien et l'éditeur. Donc ça a donné de très beaux livres, dont un là que j'ai sous les yeux avec un ami écrivain qui est Ludovic de Grotte. Les livres faits avec Ludovic ont été les plus forts pour moi. Dans le travail de création, il avait cette posture de regarder le travail du plasticien avant de fournir un texte. Et donc moi, ça m'a fait découvrir aussi pas mal d'évolutions pour mon propre travail plastique dans l'atelier. Les deux instants respirent. Il y a le travail d'atelier, il y a le travail autour du livre d'artiste. Et parfois, il y a des ponts qui se font de l'un à l'autre. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un espace beaucoup plus détendu où on s'autorise plus de choses peut-être. Ça donne des idées pour son propre travail plastique. Le travail de l'atelier avance un petit peu par des découvertes que l'on fait dans le travail qui a été instauré dans le livre.
Dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, vous parlez de écriture frappée. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous voulez dire ? Quel geste se rapporte cette expression « écriture frappée » ?
Alors, dans mon travail plastique, la matière du papier, de l'air, du vide, a toujours été une matière à part entière. Lorsque je mets de l'écrit à l'intérieur des formats, c'est une matière qui se grave à l'intérieur du papier, qui se frappe à l'aide de petits poinçons. Donc, c'est l'alphabet. Donc ça se fait lettre après lettre, je prends mon petit emporte-pièce, je le place, je donne un coup de marteau et la lettre se marque à l'intérieur du papier. Ça fait une écriture blanc sur blanc, quelque part, hein, voilà. Donc c'est un moyen d'impression qui est assez fastidieux, qui est assez minutieux. Ça demande de la précision. J'ai eu marqué, à un moment donné, j'égrène mon chapelet. C'est vraiment un travail sur le temps, sur la présence du temps qui se déroule et qui vient graver la matière du support.
Alors, on va revenir un petit peu aux notes d'atelier, donc. Cette envie de consigner vos réflexions, est-ce qu'il est né après la découverte de carnets ou de journaux comme ceux que certains peintres ont écrits? Alors on connaît les lettres de Van Gogh à son frère Théo, on connaît Delacroix qui a écrit beaucoup, Nicolas de Staël, Baslitz, mais aussi la correspondance d'Eugène Boudin, les notes de Bonnard intitulées « Observations sur la peinture ». Est-ce que vous connaissiez déjà ces écrits-là avant de vous lancer et de prendre ces notes?
Je connais ces écrits-là, mais c'est pas ça qui m'a porté vers l'écriture. C'est plus une curiosité de voir, de mettre en bouche, de mettre en mots comment la forme plastique pouvait apparaître, quel est le processus de création en fait. Vis-à-vis de mon travail plastique, j'ai toujours été dans la transmission par des ateliers. Ou actuellement, je travaille dans un hôpital psychiatrique aussi avec des patients. Dans un atelier d'art, je suscite là avec eux l'écriture aussi. Donner la parole, mettre en bouche les choses, c'est vraiment une conscience qui peut aider à poursuivre, en fait, à poursuivre le travail, à poursuivre la création, à avoir une certaine conscience de ce qui se passe dans un instant. Je pense que c'est une étape dans mon processus de création. Je n'ai plus la nécessité aujourd'hui de décortiquer autant les choses. Mais bon, c'est très intéressant, je peux vous lire quelques notes.
Alors donc, nous allons écouter Magali Latil lire quelques-unes de ses notes d'atelier.
Le temps linéaire, le temps extérieur, est une convention, une vue détachée. Le temps est intérieur. Il est stratification avec couture, jointure, strates de différentes épaisseurs. Petit geste. Le son d'une frappe obsessionnelle, puis une résonance. Répétition, ressassement, une sorte de bégaiement. Petits traits sur des bords cernent un vide. Empilement, des lignes et vibrations. Dans la lenteur, cours de petites sensations, de petites perceptions se soulèvent. J'égrène mon chapelet. Un dessin est toujours ancré au précédent. C'est une couture, ce sont des points de couture. Entre deux points, entre un dessin et l'autre, un espace vide, un entre-deux, qui précise que la main et l'esprit sont directement reliés. L'idée est collée à la manipulation de la matière, au travail de la main. Une respiration, le travail de la main crée de la pensée, et inversement. Dans cet espace, la réflexion et les mots travaillent. Une question devient prenante. Comment et d'où surgissent les choses? Le problème de la représentation se déplace alors, et on en vient à rechercher la source même du geste. Observer la naissance en soi de la forme devient alors sujet et objet. Lorsque j'arrive à dire « ça tient », ce dessin est terminé, je ne le touche plus. Le « ça tient » n'est autre que le point où la forme dessinée est l'écho d'un mouvement qui se situerait dans un espace intérieur, intérieur au corps. Il se passe là une sorte de reconnaissance, de réflexion. Cela reviendrait à dire « cette forme m'appartient ». Quelque chose de non délimité dans le temps, une forme qui n'aurait pas de bord, une matière qui se donne au vide. L'impression que le papier devient peau et chair. Le dessin va de plus en plus vers la lévitation, vers un espace traversé. La forme dessinée pourrait subitement devenir une matière à part entière qui, dans son mouvement, elle semble ramper à la surface du papier, pourrait à tout moment glisser hors de lui et prendre appui dans l'espace environnant, sur l'air, tout simplement. Passer sa vie à essayer d'attraper de l'air, voilà une bonne occupation. Dans l'écriture, l'air est visible le plus souvent dans un écoulement, la verticalité du texte. Dans le dessin, se donne à voir d'un seul coup d'œil, un immédiat. Avec les livres d'artistes, cette frontière vibre d'elle-même. Renversement du phénomène. L'écriture deviendrait une matière. Le dessin, par la verticalité, par le travail de la main, un écoulement. Tous deux remuent du temps, travaillent l'espace et tissent l'air. En fonction du dernier extrait là, que je viens de lire, me vient en tête un livre que j'ai fait encore avec Ludovic de Grotte qui s'appelle « Couler », où là justement le dessin était réellement un écoulement. Quand je parle de verticalité du texte, c'est la poésie qui se déroule comme ça, hein, du haut de la page, en bas de la page. Et donc le dessin a pris le même pli dans ce livre. Que je déroule là, vous ne le voyez pas, c'est dommage. C'est un Leporello où le texte de Ludovic vient se poser à l'intérieur du dessin. Le Leporello fait environ 1,50 m. Le texte se dépose à droite, à gauche, et vraiment une trace visuelle, alors que le dessin coule du haut de l'espace, du haut du livre, en bas du livre. Les deux matières s'accompagnent réellement.
Alors Magali va nous lire le texte de Ludovic de Grotte qui donc accompagne ce dessin qui s'écoule.
Voilà, ce livre s'appelle « Couler ». Sans orifice, le corps du temps s'écoule, à plat. j'attends le monde. Et si le monde vient, je le vois. Mes yeux, mes mains, mon ventre, tout. Je lève tout ce que je peux lever. Comme si je sortais de moi-même. Dans un corps qui se montre et converge. Je dis que le présent est là. Avant qu'après. Se close et se plie. Cette sorte de bouche à l'intérieur de la vie défaite. Donc c'est suite à ces grands formats verticaux que nous avons fait ce livre, qui est un travail en découpe. Donc les deux côtés de la feuille sont impactés, le dessin est recto verso, et Ludovic a écrit un texte en fonction de cela. Je vais vous lire ce texte. Ici, je passe ailleurs, le temps d'attendre ce qui vient. Et si rien ne vient, je passe ailleurs, le temps d'attendre. Je regarde l'espace qui n'est plus le même. Je crois bien que c'est ça, je regarde l'espace. Je regarde les effondrements. Je crois que je suis seule à les voir. Nous allons ainsi, chacun à son bord. Nous n'allons pas plus loin. Ce doit être une question de vertige. Tout cela semble si défait. J'aime ce qui n'a l'air de rien et se donne d'évidence. On ne demande rien à personne. On est là, comme dans une vie toute simple. Simplement défaite de cette façon de pas grand-chose. Qui fait qu'on essaie de faire se tenir ensemble. Ce qui n'a pas d'évidence. Ludovic, en fait, c'est quelqu'un qui manipulait beaucoup des notions de bord, de limite et de vide d'air aussi. On s'est bien entendu dans ses livres pour faire ses livres ensemble. L'écriture et le travail plastique se rejoignent idéalement.
Vous parliez de Ludovic de Grotte, il y a un autre auteur sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu. Comment avez-vous rencontré Bernard Noël ?
Bernard Noël, ça a été quelqu'un qui a peuplé ma bibliothèque depuis très très longtemps. Ensuite, j'ai rencontré donc Jean-Pierre Saint-Yves, qui avait les éditions Une, qui est devenu un grand ami. Les écrivains qui ont formé un petit peu ces éditions sont devenus un peu une sorte de famille. On partageait beaucoup, et donc Bernard, je l'ai rencontré par le biais de Jean-Pierre. On a toujours beaucoup parlé, il a écrit un très beau texte pour un catalogue d'une exposition à la Villa Tamaris, Pacha. Donc pour ce catalogue-là, il y a un très, très long texte. Il était venu à l'atelier, nous avions pendant 2 jours parlé du travail et il avait fait une très belle création.
Alors je rappelle que Bernard Noël est né en 1930 en Aveyron, que dès 1958, il publie « Extrait du corps », un recueil dont l'influence n'a cessé depuis de nourrir la poésie contemporaine. Son livre suivant, « La face de silence », paraît 9 ans plus tard. En 1973, la justice le poursuit pour outrage aux bonnes mœurs après la publication de son roman « Le château de Seine ». Il dirige un temps la collection « Textes » aux éditions Flammarion et fait paraître en 1971 un incontournable dictionnaire de la Commune. Marqué par les tragédies de l'histoire récente, c'est-à-dire l'explosion de la première bombe atomique, la guerre d'Algérie, il construit une œuvre d'une liberté absolue. Il a expérimenté tous les genres, le roman, la poésie, les écrits politiques. Il a créé ce concept original de censure, S-E-N-S-U-R-E, c'est-à-dire la privation de sens. Il a écrit des essais artistiques, il a écrit du théâtre, il a traduit de l'anglais, de l'italien, de l'hébreu, de l'arabe. Ses livres sont parus principalement aux éditions Flammarion, aux éditions POL, aux éditions Fata Morgana et aux éditions Une, dont nous venons de parler avec Magali. Il nourrit autour de la question du regard, très présent dans son œuvre, de grande proximité avec les artistes de son temps, sur lesquels il écrit, ou avec lesquels il réalise de nombreux livres d'artistes, Bernard Noël a reçu d'importantes distinctions, dont le prix Antonin Artaud, le prix Guillaume Apollinaire, le Grand Prix national de poésie ou le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Et il meurt à Laon le 13 avril 2021. On ne s'en est toujours pas remis. Après cette longue parenthèse, je vais donc poursuivre avec Magali. Magali, il me semble que Bernard Noël avait écrit autre chose pour vous. Et si je me souviens bien, le titre de ce texte, c'était « La peau du temps ».
Alors, « La peau du temps », c'était pour un premier catalogue, pour une exposition au Fort Napoléon.
Eh bien, je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce texte. « La peau du temps ». Si quelqu'un voulait représenter l'espace du regard tel qu'on doit le voir depuis les yeux, il lui faudrait rendre visible un bord interne, une sorte de peau intérieure, bref, la paroi de la bulle aérienne. Représenter cette paroi invisible conduirait à faire apparaître une zone limite, analogue sans doute à celle qui, dans l'œil, opère le retournement des choses extérieures en images intérieures. Et ne faudrait-il pas, dès lors, considérer l'espace du regard comme l'équivalent symétrique et externe de l'espace du dedans ? En somme, un pré-intérieur. Ce lieu est sensible quand le regard tente d'apercevoir son propre mouvement et découvre que la perception de son étendue volumineuse lui procure le sentiment qu'elle est un prolongement du corps. Pour peu qu'on ait senti cela, qui est de l'émotion et non pas de la vision, le problème n'est plus de représenter l'irreprésentable pour de la bulle, mais de trouver le moyen d'en exciter la présence. La vue ne voit jamais que le visible, mais la surface du visible peut trembler, comme un rideau, au souffle de la chose cachée derrière. La vibration est moins enregistrée par la vue que transmise à l'espace visuel, si bien que, soudain, alerté, celui-ci vient attentif à la propagation d'un courant émouvant. C'est à peu près l'enchaînement que provoquent les chronopistes de Magali d'Attil. Les regardant, vous êtes devant une surface striée de filaments superposés, dont l'empilement détermine une forme thoracique, laquelle vous retient surtout par un flottement, une transparence, une sorte d'élan retenu, où vos yeux trouvent un accord très profond. Il n'y a rien là qu'un toucher visuel satisfaisant. Et dans le temps de la même impression, quelque chose de tout autre. Une chose qui, à travers l'harmonie, établit entre vous et la surface contemplée une intimité si complète que vous voilà devenu son double. L'hésitation à nommer ainsi ce phénomène vous conduit à vous rapprocher pour voir de près la composition des stries. C'est à chaque fois un mince dépôt d'enduit, tel un ruban irrégulier. Sur ce ruban apparaît une double rangée de traits verticaux et minuscules tracés à la pointe d'argent. Ils ménagent entre leurs bords un chemin. Rien d'autre que ce presque rien et le temps considérable qu'il a fallu pour aligner cette infinité de traits. Le temps n'est pas plus visible que l'espace. Un détail peut nous rendre sensible sa présence. Chronos a laissé là son empreinte ou sa piste. On ne le voit pas, lui, mais on les voit, elles, et elles conduisent inévitablement à lui. Ce qu'on ne saurait voir, mais qui néanmoins est là, peut être offert à la perception par un détour, détour qui aménage dans l'espace une sorte d'écho visuel dont la résonance fait apparaître ce qu'on ne voit pas sans l'arracher pourtant à l'invisible. Toutes les œuvres présentées ici par Magali d'Attil travaillent à créer entre elles et nos yeux un espace habité. L'apparition qui est là, imminente, a lieu finalement en nous, sans se manifester devant nous, mais ce « en » nous est aussi bien devant nous, puisque l'œuvre, dans le moment de son action, unit ce qui surgit d'elle et ce qui est reçu en nous, de sorte que cette irruption brise la différence entre son dehors et notre dedans. Qui sommes-nous alors, dans l'espace unifié ? Non plus des spectateurs, sans doute, mais les participants de la métamorphose qui, par l'expression, projette dehors notre dedans. Donc je rappelle que ce texte a été écrit par Bernard Noël, que c'est une parution que l'on doit à la tête d'Obsidienne Art Contemporain dans le numéro d'avril-juin 1999. Vous écoutez D'assonances en dissonances, l'émission consacrée à la poésie contemporaine. Mon invitée ce soir est Magali Latil, autrice, plasticienne, qui entretient un rapport étroit entre dessin et écriture. Est-ce que la musique est importante pour vous, Magali, dans votre vie ?
La musique a été très importante. J'ai suivi des gens qui travaillaient la musique improvisée. Bar Phillips, qui a été un peu un ami, ma famille. Bar a pris sous son aile à un moment donné un groupe de jeunes musiciens et ils ont formé ensemble la compagnie Bar Phillips. Donc c'était le groupe Emir. Donc j'ai beaucoup fréquenté, j'ai travaillé avec eux très longtemps. La musique aussi, comme l'écriture, peut porter, peut influencer des formes, des vibrations. C'était vraiment de belles rencontres.
Alors si je vous ai posé cette question à propos de la musique, c'est que la constante de notre émission est que mon invité choisisse de faire écouter un morceau de musique ou une chanson à nos auditeurs. Quelque chose qui a une valeur symbolique pour vous, ou bien quelque chose qui vous accompagne dans votre travail, quelque chose que vous avez tout simplement envie de faire découvrir, de partager avec les auditeurs. Quel serait votre choix, Magali Latil, et pourquoi ?
Je proposerais volontiers un musicien qui s'appelle Stefano Scodanibio, italien, un contrebassiste. J'ai assisté à un de ses concerts il y a plusieurs années de ça, lorsque justement Bar Phillips avait instauré un lieu dans le village qui s'appelait la cave Bleu Bœuf. Il programmait des amis de passage et il y a de belles personnes qui sont venues jouer dans ce lieu, dont Stefano Scodanibio qui nous a quittés, je pense, en 2012. C'est un contrebassiste qui travaille à l'archer. Sa musique m'avait énormément touchée parce qu'elle était un peu sous forme de ressassement ou quelque chose qui venait bégayer.
Eh bien, on va écouter un extrait donc de l'album qui s'intitule « Voyage that never ends ». L'extrait du morceau que nous allons écouter est le quatrième, « Voyage resumed ». Thank you. Vous venez d'entendre Stefano Scotanibio à la contrebasse, et c'était le choix musical de mon invitée Magali Latil, qui travaille le dessin comme si elle écrivait. Magali Latil, on a parlé des livres d'artistes, des écrivains qui ont collaboré avec vous, de vos notes d'atelier. Parlons maintenant de votre propre poésie, et pour cela, je vais vous demander de nous présenter le livre paru aux éditions Pas vu, pas pris, que vous avez donc écrit.
Donc c'est un tout petit livre qui s'appelle Corps. Et les éditions de Stéphanie qui s'appellent Les Mains s'appelaient à cette époque-là Pas vu, pas pris. Ça date de janvier 2010.
Je précise que Stéphanie Ferrat est elle aussi plasticienne et poète. Alors, comment est né ce livre avec Stéphanie Ferrat, qui fait partie de votre famille, puisque...
Oui, un petit peu, et puis j'aime beaucoup son travail plastique également, hein. Elle a un très beau travail. Elle écrit, elle est vraiment poète, elle publie ses poésies, elle a vraiment un travail d'écriture. Et donc elle fait des livres où elle réunit des écrivains et son travail plastique souvent. Et donc, à un moment donné, j'ai pris la place, moi, de l'écrivain avec elle. Et j'avais écrit un petit poème sur son propre travail plastique, en fait, en vis-à-vis, en regard à son travail plastique. Donc je vais vous lire ce que j'avais écrit, un petit poème. Pluie, de plus en plus fine. Sa bouge suivant, une poche d'air, borde au fond. Un peu d'air épais. Marque, morsure emportée, cerne de sel, passage par quelques crocs, espèce d'habitude creusée, peu, infime, harcèlement d'oiseaux, raclure et souffle un goût d'acier. Poudre roulée au bord du vide, le monde, à chaque fois plus, membrane. Pour franchir sur l'intérieur, le corps, les choses plus grandes, les organes, tout ce qui rend plus long, l'égrènement dépassé.
Merci beaucoup. Ce genre de texte aéré mais très dense en même temps, ça me fait penser à Odile Fix.
J'ai rencontré aussi qui a un très beau travail plastique. Elles ont travaillé toutes les deux ensemble, hein, Stéphanie et Odile. Et Odile Fix a aussi une maison d'édition.
Les éditions du Fro.
Ah, du Fro, voilà.
Le Fro comme cette espèce de lande d'altitude dans son Auvergne. Alors je vais lire une présentation de l'exposition qui a eu lieu du 8 mars au 19 avril 2014 à la Galerie Librairie Art 06 de Nice. Un simple crayon, le refus de la couleur, le renoncement au geste. Magali Latil est un peintre qui travaille avec les outils de l'écrivain, avec la minutie du scribe. Mouvement vers une parole perdue, une vibration qui cherche sa forme. Un linceul posé sur le langage et linceul posé sur l'absence. Membrane coulée au centre, trace contre l'effacement. Le tracé condense une agrégation de tissus, une irrigation. Un tissage comme un raccommodage de l'espace fait corps. Nous voyons, et ce ne sont jamais des peaux, mais leur matière est organique. Une vue sous le corps. Pas un geste, mais une couture, un rassemblement jusque dans le délitement. Nous sommes à l'envers des choses, dans le dos, le vêtement intérieur. On pourrait chercher des mains, des vertèbres, des voluptés, des corps évanescents, allongés, des danses. Ce n'est pas l'image ici qui est en jeu, c'est autre chose. C'est à travers, dans la transparence de la moelle épinière, une sensualité blanche. Alors les mots que je retiens ici, ce sont « transparence et couture. Et il me semble en effet que la transparence, avec une forme de superposition de couches, peut jouer un grand rôle dans le rendu de vos œuvres. Pouvez-vous nous expliquer comment la couture intervient et joue aussi un rôle dans votre pratique? Vous avez déjà plus ou moins répondu à la question que je vais poser maintenant. Est-ce quelque chose qui est prémédité ou bien cela vous vient en faisant, crayon en main?
Il y a des créations où la couture était réelle. C'est un texte qui vient d'une exposition qui a été faite à la galerie, librairie Art 06. Donc c'est François Hesbourg qui a écrit ce texte.
Et François Hesbourg a donc pris la succession de Jean-Pierre Saint-Yves pour les éditions Une.
Voilà. J'avais exposé des dessins qui s'appelaient les linceuls cellulaires. C'était de très grands formats qui étaient dessinés, cousus. Et la couture formait un trait plastique, en fait, hein, pour moi. Et déformait le support. Donc le support devenait un petit peu bas-relief par le geste de la couture. Et la couture a toujours été présente, même au tout début de mon travail. Pour créer de très grands formats, je travaillais beaucoup sur du papier arche à cette époque-là. Et pour monter mes formats, c'était des formats de papier arche qui étaient cousus ensemble et qui formaient
un patchwork.
Un patchwork, voilà. Ça me donnait un support plus grand. La couture a souvent été présente dans mon travail, comme la découpe. La découpe, la couture. Donc là, à ce moment-là, je travaillais l'espace de l'air, l'espace du vide, la matière du papier. Et aujourd'hui, c'est toujours ces matières-là que je travaille, mais qui se font plus en stratification à l'intérieur du papier par des recouvrements, en fait, des recouvrements de gesso, du ponçage.
Donc on est dans l'atelier, je vois une casserole sur un petit réchaud. Vous faites fondre de la cire là-dedans, de la paraffine?
Voilà, c'est sur des papiers qui sont trempés dans la paraffine. Donc ça me donne un support qui a une fragilité qui m'intéresse parce que je peux la superposer. Je teinte un petit peu la cire, donc il y a une couleur. Moi, j'ai toujours travaillé vraiment le noir et blanc. Hein. Je ne suis pas coloriste du tout. Et là, actuellement, dans mon travail, il y a un petit peu des couleurs qui surviennent plus par accident. Donc que je recouvre, que je reponce, que je laisse apparaître, mais très légèrement, disons. Voilà. Et donc la cire me sert à ça.
Et puis ça peut se graver aussi, ces matières-là.
Ah, ça peut se graver. L'écriture aussi est intéressante. Là, cette histoire d'écriture frappée dans des papiers cirés, c'est très intéressant aussi.
Alors, puisque vous parlez d'écriture, Magali, je vais citer à nouveau ce que vous avez déclaré. Le mouvement de la pensée écrite essaierait d'être visible différemment par le dessin. Du dessin surgirait ce mouvement même à l'instant de son apparition. Une parole qui ne parle pas, une parole silencieuse. Vous l'avez un petit peu développé au début de l'émission. Pour vous, il semblerait que ce soit la pensée qui mène à l'écrit et ou au dessin. Mais cette pensée précède-t-elle les premiers traits esquissés sur le papier ou la toile? Ou bien vous laissez-vous complètement aller à une improvisation qui se révèle ensuite tirer un fil de la pensée? Peut-être que c'est un petit peu des deux d'ailleurs.
Au moment du faire, dans l'instant du faire, bien évidemment, la tête n'est pas présente. On se laisse porter. Lorsque j'ai la feuille devant les yeux, le format influence énormément la forme qui va apparaître. Pour moi, l'espace vide a déjà un poids énorme dans ce qui va apparaître. On ne va pas mettre la même chose dans un grand format, un petit format, vertical, horizontal. Quand je disais tout à l'heure que j'aimais bien mettre en bouche, savoir par où les choses passent, comment les choses surgissent, ça serait dans l'espace entre deux dessins. C'est pas au moment même, dans l'instant même de la création. On ne projette jamais réellement le dessin fini lorsqu'on commence à dessiner, ou la peinture finie lorsqu'on commence à peindre. Ça se fait en faisant, tout se fait en faisant. C'est ça qui est intéressant. Sinon, on fait quoi? Une image, une illustration qui est déjà préétablie. Voilà, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a des accidents qui arrivent. C'est vraiment ce qui se crée sur le format qui guide la main, qui guide la vision, en fait.
Oui, donc plus rien à voir avec les travaux de commande que les cardinaux pouvaient commander à Caravaggio ou etc. D'accord. Je reviens à cette remarque qui conclut le texte de Bernard Noël, lu tout à l'heure. Il disait, en parlant des visiteurs venus regarder votre exposition, Magali l'a-t-il, qui sommes-nous alors dans l'espace unifié, non plus des spectateurs, sans doute, mais les participants de la métamorphose qui, par l'expression, projette dehors notre dedans. Mais dans l'écriture, c'est un peu ça aussi, ce mouvement de dedans-dehors, ce qui se dépose au-dedans qu'on veut projeté dehors, ce qu'on absorbe du dehors, qui est digéré et relancé, rejeté vers, ou réoffert en quelque sorte, à autrui. Je me demandais si c'est ce geste-là que vous voulez faire aux spectateurs quand vous exposez vos œuvres. Est-ce que c'est conscient de votre part, cette opération de métamorphose qui, par l'expression, donc votre dessin, projette dehors notre dedans, est-ce que c'est une invitation que vous lancez au spectateur consciemment?
Je ne pense pas, lorsqu'on travaille à l'atelier, on ne pense pas du tout ni à passer quelque chose ou à faire en sorte que les gens qui vont regarder l'œuvre puissent ressentir ça ou autre chose. Dans ce temps de la création, j'ai jamais trop pensé à ce qu'allaient pouvoir prendre les gens qui allaient être emmenés à regarder ce dessin ou à être dans cette installation en fait. Mais effectivement, j'ai toujours parlé beaucoup de mouvements intérieurs, de formes intérieures qui venaient se déposer dans l'espace du papier. Donc obligatoirement, certaines personnes qui regardent vont prendre ça, vont être sensibles à ça également, je suppose.
À mes yeux, tout artiste crée son propre langage, sa propre grammaire, son style, sa voix. Et il me semble que votre voix, Magali, doivent s'écouter dans le silence, car elle semble venir du profond silence de votre conscience, occupée à un effort de réflexivité et de lucidité. Alors, je ne sais pas si mon analyse vous paraît juste. Est-ce que je me trompe?
Mon travail a toujours parlé de temps, ça a toujours été des gestes très, comment dire, très lents. Hein, le travail du dessin est un travail dans la lenteur. Donc effectivement, ça fait naître des espaces. Lorsque je dis que je me suis toujours intéressée à la matière du support, à l'air, au vide, au bord, aux limites, au blanc. C'est des espaces qui sont très évanescents quelque part. Hein. Oui, c'est une création qui demande du silence.
Est-ce que vous êtes sensible à ces poètes qu'on a classés justement dans cette catégorie de poètes liés au silence ou voués au silence, ben, comme Paul Celan, comme...
Oh, tout à fait, oui, Paul Celan, oui, aussi, c'est quelqu'un qui peuple ma bibliothèque depuis très longtemps. Oui, c'est un style d'écriture qui me touche énormément, oui.
Dans vos notes d'atelier, vous écrivez: ce qui peut rassembler l'écriture et le dessin seraient la matière de l'air et l'idée de temps. Dans le dessin, le papier devient l'air qui porte la forme et dont la forme est constituée. Dans l'écriture, l'air peut se dire espace mental, le blanc entre les mots, les plis et replis que porte le sens. Le processus dans l'un et l'autre est simplement légèrement différent. Dans l'écriture, l'air est visible, le plus souvent dans un écoulement, la verticalité du texte. Dans le dessin, se donne à voir un seul coup d'œil, un immédiat. Est-ce que c'est là, selon vous, que réside la supériorité du dessin sur l'écriture, cet immédiat donné à voir, quand l'écriture, elle, se déplie, s'écoule et ne donne jamais une vision d'ensemble de ce dont il est question? Il s'agirait de la différence qu'il y a entre apparition soudaine, jaillissement d'un côté, et de l'autre, un flot, une durée, un écoulement, ce qui fait que le travail de l'œil, quand il lit, n'est pas le même que lorsqu'il embrasse la totalité d'une image. Est-ce que vous auriez une réflexion, un commentaire à faire sur ce sujet?
Alors là, on parle de la personne qui va regarder l'œuvre, du spectateur. Effectivement, quand on est devant une peinture, un dessin, Oui, pour moi, ça se donne dans un immédiat. Mais pas que, parce que si vous vous intéressez vraiment à ce qui se joue dans l'espace plastique, vous allez pouvoir vous reprojeter peut-être dans la main du peintre et essayer de voir un petit peu le parcours de cette main. Comment l'espace est arrivé et de quelle manière il est arrivé, et quelle trace a envahi quelle autre trace, ou qu'est-ce qui se place devant, qu'est-ce qui se place derrière, s'il y a des stratifications, est-ce qu'il y a. On peut refaire un petit peu le parcours de la main du peintre.
Et puis on peut même parfois saisir l'énergie qu'il y a dedans.
Oui, l'énergie aussi, voilà. Tout ça survient. Il y a différentes lectures devant une œuvre. Dans la vue, c'est effectivement, c'est un immédiat qui prend la vue, qui prend le corps.
Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. C'est que le temps passe vite. Et il est temps de vous poser la question de l'avenir. Quels sont vos projets, vos chantiers de travail? Est-ce que vous avez des expos en vue ou des publications en cours?
Alors, il y a une publication prévue avec une poète, une écrivain, dans une collection qui s'appelle Duo, la collection Duo, aux éditions Les Lieux Dits. Donc, on ne sait pas trop quand va sortir ce livre encore. Bon, c'est un livre qui est issu d'une rencontre entre cette poète et mon travail plastique. Dans ce livre, il va y avoir quelques fragments de mes notes d'atelier. La poète a répondu, c'est un peu un dialogue, un écho à ses notes d'atelier. Il y a une parole, il y a une écriture qui vient dialoguer avec mon travail. Et c'est une très belle rencontre. Il y a quelques reproductions d'œuvres aussi à l'intérieur de ce livre. Donc on ne sait pas quand ce livre va être publié encore, mais c'est en projet.
Et le titre de ce livre?
C'est Résonance, voilà. C'est une rencontre qui s'est faite en résonance.
Eh bien, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Magali Latil. Merci pour votre accueil, merci pour le temps dédié à cet entretien, et je suis certaine que nos auditeurs auront apprécié vos réponses, la profondeur aussi de vos écrits, votre honnêteté, et qu'à la prochaine occasion, ils viendront visiter vos expositions ou bien qu'ils se procureront certains de vos livres. C'était D'assonances en dissonances, l'émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité afin d'ouvrir un nouveau chapitre et continuer notre exploration du paysage poétique si riche et si vivant, bien qu'en dehors des sentiers battus par les médias en général. Rendons donc hommage à Radio Agora Côte d'Azur de faire une place à cette activité humaine si nécessaire à notre santé mentale, à notre santé tout court. Chers auditeurs, au mois prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir, merci.